应该是打高尔夫了。
On va les enfants, à bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. Alors cette semaine, un numéro un petit peu spécial puisque les images feutrées des Confessions, film italien de Roberto Ando, seront projetées sur notre toile sous les seuls yeux de votre serviteur, faute de chroniqueur présent cette semaine à mes côtés. Donc ce film, Les Confessions, nous place dans le huis clos d'un G8 qui se tient en Allemagne dans un bel hôtel au bord de l'eau. G8 réuni par le directeur du FMI, joué par Daniel Auteuil, et autour duquel se trouve donc un certain nombre de chefs d'État, et qui a été ouvert à trois personnalités extérieures, une romancière, un musicien, tous les deux militants pour certaines causes qu'ils essaieront de défendre dans ce G8, mais surtout un moine italien dont on ne sait pas exactement pourquoi il a été invité ici et qui est joué par l'acteur Tony Servillo. Donc on est dans l'ambiance feutrée de l'hôtel, hein, je le disais, et des choses cruciales se décident un petit peu en secret entre les chefs d'État. Le problème, c'est que ces décisions sont interrompues par le suicide du directeur du FMI, donc à moins qu'il ne s'agisse d'un assassinat. Et alors, le huis clos pourrait soudain se transformer en une espèce de cluedo, et c'est bien ce qui semble arriver, car tout le monde soupçonne le moine. Mais en fait, le spectateur n'a jamais vraiment envie d'y croire, et le film se transforme en une fable politique passionnante qui, alors certes, n'évite pas tous les écueils, mais met quand même en place une démarche très très intelligente. Et je commence donc avec ce personnage du moine, personnage central, qui porte un petit peu une irruption de la morale et de la conscience dans un univers dont on a l'impression qu'il s'efforce de l'oublier. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit dans les fameuses confessions de Daniel Auteuil à Tony Servillo avant cette nuit où le directeur du FMI va se donner la mort. Et alors que ce monde de la finance, du pouvoir, n'a aucune prise sur lui, aucune prise sur ce moine qui a fait vœu de silence et qui, aux questions qu'on lui pose, se contente à un moment du film de répondre en dessinant deux oiseaux sur une feuille de papier en une espèce de message énigmatique dont on ne comprend réellement le sens qu'à la fin du film. Malgré tout, si l'on n'a aucune prise sur lui, lui a prise sur ce monde où il intervient. C'est un petit peu le grain de sable qui perturbe toute la machine, et c'est là qu'est l'intérêt du huis clos. Il n'est pas du tout dans la dynamique du film policier, qui est assez vite laissée de côté, même si elle impulse son rythme au film. C'est bien de montrer toute la perturbation apportée par ce personnage. Ce personnage à la fois humain et surhumain par sa simplicité dans ce film. Et là, il faut saluer le jeu de Tony Servillo qui nous rappelle sa prestation magistrale il y a quelques années dans La Grande Bellezza, où il se positionnait aussi en observateur silencieux. Alors à ce moment-là, on était à l'intérieur de lui, on avait sa voix off et il nous dépeignait il était le vecteur d'une humanité consciente de sa médiocrité. Aujourd'hui, on le voit évoluer en silence et c'est une figure mystique consciente de la médiocrité des hommes auxquels il n'appartient même plus vraiment. Alors je disais que le film n'échappe pas à certains écueils. En effet, l'intrigue utilise des ressorts parfois un petit peu facile, un petit peu conventionnel dans sa partie thriller. Certains plans sont parfois convenus et portent une mise en scène assez dramatique, toujours sur ce même volet du film, mais la fin sauve tout ça, parce qu'elle fait basculer complètement le film dans la fable. Et là, ça nous rappelle un autre film, Bird People de Pascal Ferrand, sorti il y a 2 ans, où déjà la course du monde s'arrêtait complètement et il ne restait plus que d'une part des personnages contemplant une espèce de néant et leur conscience libérée et transformée en oiseau. Et la place de l'oiseau dans ces deux films est extrêmement intéressante. Et cette fin, justement, dont je ne dévoile pas l'intégralité, fait de ce moine vraiment l'incarnation d'une conscience presque divine, c'est-à-dire infiniment humaine, dans une conclusion assez magnifique, je dois dire. Alors, J'en profite pour souligner la réussite de la musique. La musique est capable de gâcher complètement un film. Pablo Larraín nous l'a montré très récemment avec Jackie, mais peut aussi sacrément l'améliorer. Et ici, tant la BO que l'utilisation de la musique de Schubert est vraiment complètement à propos dans ce film. Reste le propos justement politique, très fort, de ce film. Alors c'est une dénonciation qui n'est pas neuve, mais qui est nécessaire de la forme que prennent aujourd'hui des rapports politiques centenaires, toujours exacerbés et toujours plus déshumanisés. Le film, dans cette dénonciation, ne se permet pas de porter un espoir qui serait tout à fait malvenu, mais pour autant il ne donne pas d'absolution à ce qu'il critique, malgré sa posture très religieuse, il faut bien le dire. Et c'est là toute la force du film qui fait rebasculer pendant 2 heures la politique dans le champ de l'intime, dans le champ de la conscience. Et à ce titre, les scènes de confession entre Daniel Auteuil et Tony Servillo sont extrêmement intéressantes. L'image est soudain beaucoup plus chaude, presque rougeoyante, et prend des airs de purgatoire, mais des airs aussi beaucoup plus humains. Voilà, et c'est au milieu de tout ça que se positionne le personnage joué par Tony Servillo, qui est vraiment magnifique, et je pense qu'on se souviendra de l'énigmatique figure blanche immaculée qu'il joue ici, comme d'un rôle marquant pour cet acteur italien. Et le film est encore en salle cette semaine. Évidemment, je vous encourage à aller le voir, car c'est un moment tout à fait intéressant. Et sans plus tarder, nous retrouvons Pierre, qui est de retour pour nous parler d'une nouvelle série.
Ted, suit up!
Lana. Lana. Lana.
Lana!
What? Danger zone.
Say my name.
Eisenberg.
You're goddamn right.
Cool. Cool, cool, cool.
Boy, these pretzels are making me thirsty.
While my days are not taking you seriously, they're certainly coming to a middle.
Plata o plomo.
Democracy is so overrated.
Office.
Winter is coming.
Bonjour Rémi, bonjour à vous tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vous parle d'une série un peu particulière, mais très intéressante. Elle est accessible sur le site d'Arte en intégralité, parce que oui, Internet est à la fois une source d'inspiration, mais aussi de diffusion. Et la série Il revient quand Bertrand est juste parfaite sur ces questions-là. Après, parfaite, pas forcément niveau histoire, réalisation et tout, mais elle a un sacré niveau, il faut l'avouer. Du coup voilà, Il revient quand Bertrand est une web-série de 10 épisodes d'une dizaine de minutes chacun. Elle a été mise en ligne en novembre dernier sur le site d'Arte, qu'il a coproduite avec 7ème Film et LM Productions. L'histoire est très simple, mais plutôt bien menée. Bertrand s'engueule avec sa copine et se retrouve chez son voisin de palier, Gus. Sauf qu'il s'avère que ce voisin de palier, ancien de l'armée, a des caméras installées partout dans l'immeuble. Plutôt que de le confronter, de le dénoncer, Bertrand se retrouve finalement à habiter chez Gus et à utiliser toute la technologie qu'il a à sa disposition pour reconquérir sa Magali. Ça donne un cocktail assez amusant, il faut le dire, et très bien mené. L'idée qui dirige l'histoire, c'est bien sûr les réseaux sociaux, Internet, les SMS, etc. On en oublie presque le fait que, c'est de l'espionnage malsain, pur et simple. Mais c'est vraiment amusant à regarder l'utilisation extrême de tous ces outils du quotidien. Afin de reconquérir son ex, Bertrand a la superbe idée de faire croire, depuis le petit studio parisien de Gus, qu'il fait le tour du monde. Ajoutez à cela les conseils de Gus, à moitié entre comédie romantique et maxime militaire, ça apporte un ton décalé, vraiment efficace. D'ailleurs, chaque épisode a pour titre un conseil romantico-militaire qui donne le ton des 10 minutes de plaisir qui suivent. Alors, pour passer rapidement sur les atouts classiques d'une série bien léchée, les acteurs sont plutôt convaincants, surtout les deux personnages principaux. Même si Bertrand paraît un peu creux dans ses moments supposés humoristiques, c'est rattrapé par le fait que le personnage est un peu un sacré loser et que dès qu'il devient sérieux, ça marche vraiment. Les autres personnages font très cliché, mais avec un format si court, pas le temps de les développer. Ce qui fait qu'il y a de sacrés écarts entre les jeux d'acteurs. Le beau gosse qui crèche ses Magali et menace de s'y installer vraiment est vraiment très banal, sans grand intérêt autre que sa place d'opposant. Alors qu'au contraire, Magali et sa pote sont vraiment convaincantes et intéressantes. Elles ajoutent à l'histoire et rajoutent une certaine profondeur aux interactions entre les personnages. Maintenant, le vrai nœud du sujet, c'est-à-dire l'intégration de la technologie dans la réalisation. Parce que oui, quand même, c'est un peu le sujet principal de la web-série, et c'est toujours épineux. Parfois, c'est un style à part entière, comme dans la série Sherlock, par exemple, où les SMS s'affichent au-dessus des portables lorsque les personnages les utilisent. Ici, dans Il revient quand Bertrand, on voit à la fois le processus de production et le résultat, ce qui justement dévoile littéralement l'envers du décor. Par exemple, quand Bertrand fait semblant de skyper depuis le Brésil, avec un costume assez ridicule, un sombrero, etc., et derrière lui, un drapeau du Brésil qui pendouille, du fond de teint qui fait croire qu'il est bronzé, etc. Le fait d'avoir des caméras cachées pour espionner l'appartement où Magali vit permet de faire de la web-série un véritable huis clos chez Gus, tout en ayant une ouverture technologique vers le monde. Et après tout, n'est-ce pas ça la technologie moderne? Parce que oui, la technologie dans cette web-série sert à reconquérir son ex, mais surtout à s'inventer une vie, s'inventer un personnage qui fait le tour du monde avec différents événements, etc. On en voit ses bienfaits, celui de montrer sa vie, de construire une image de soi du coup, mais aussi des fois on voit les aspects négatifs. Avec les SMS et les messages Facebook couplés à la caméra, on voit la réaction directe à ce type de conversation basée normalement sur la distance. Lorsqu'on envoie un SMS, on ne s'attend pas à voir la personne en face de nous réagir et on ne peut pas lire sur son visage sa réaction. Or, dans cette série, c'est le cas grâce justement à toutes les caméras que Gus a installées. Du coup, ça nous permet de décortiquer les mécanismes de ce genre de communication. Le tout, bien sûr, avec les commentaires et les conseils de Gus, ça vous fait une vraie petite pépite sociologique. La technologie est donc à la fois un moteur principal, mais aussi le sujet central de cette web-série assez étonnante, je vous l'avoue, qui m'a vraiment beaucoup surpris. Et qui parle quand même un peu d'amour, hein, ça vaut la peine, ça fait toujours plaisir. Du coup, je lui accorde un bon petit 14 tweets sur 20 notifications Facebook avec la mention « à regarder d'une traite un soir où vous êtes cloué au lit ou en peine de cœur ». Maintenant, avant de vous dire au revoir, j'aimerais juste vous proposer un petit truc pour les intercus. Et oui, je me propose de faire un atelier de réalisation de mini-séries, c'est-à-dire en une journée, il faudra avoir monté et peut-être même diffusé 8 petits épisodes d'une série que nous déciderons ensemble comment elle sera découpée, de quoi elle parlera, etc. avec une seule équipe d'acteurs qu'il faudra donc gérer sur un tournage roulant. Je vous invite donc à m'envoyer un mail à pierre.le-mouel@ens-lyon.fr, la totale, vous connaissez, pour me dire si vous êtes intéressé ou non. Et sur ce, j'espère que vous partagez avec moi votre amour des séries et je vous souhaite une bonne semaine.
Merci beaucoup Pierre, et il est temps de continuer, chers auditeurs, et même de terminer avec quelques idées de sortie pour vous cette semaine. Alors je commence avec American Honey de Andrea Arnold, qui suit le personnage de Star, une jeune femme qui quitte sa famille dysfonctionnelle et rejoint une équipe de vente d'abonnements de magazines qui parcourt le Midwest américain en faisant du porte-à-porte. Aussitôt à sa place parmi cette bande de jeunes, elle adopte rapidement leur style de vie rythmé par des soirées pour le moins arrosées, des petits méfaits et des histoires d'amour. Et c'est un portrait extrêmement libre, extrêmement vivant, extrêmement jouissif que nous propose ce film. Je vous encourage à voir la bande-annonce qui est déjà un concentré de vitalité et qui n'est pas sans rappeler la petite pépite qu'avaient été les Ogres l'an dernier à la même période de l'année. Je continue avec les rendez-vous du documentaire présenté par les Cinémas Lumière chaque semaine, et cette semaine, le documentaire « Tous au Larzac » de Christian Rouault, qui revient sur les acteurs drôles et émouvants d'une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l'État, affrontement du faible contre le fort, qui a uni toutes ces personnes dans un combat sans merci pour sauver leur terre. Un combat déterminé et joyeux, mais aussi parfois éprouvant et périlleux. Alors, je resitue ça, tout commence en 71 lorsque le gouvernement, par la voix de son ministre de la Défense Michel Debré, déclare que le camp militaire du Larzac doit s'étendre. Radical, la colère se répand comme une traînée de poudre, les paysans se mobilisent et signent un serment, jamais ils ne céderont leurs terres. Le film a reçu le César du meilleur documentaire en 2012 et est donc présenté lundi 20 février à 18h30 au cinéma Lumière Bellecour. Et je termine avec Loving de l'américain Jeff Nichols, qui raconte l'histoire de Mildred et Richard Loving, couple qui s'aime et décide de se marier. Rien de plus naturel, sauf que lui est blanc et qu'elle est noire et que nous sommes dans l'Amérique ségrégationniste des années 50. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice. Le couple est condamné à une peine de prison avec suspension de la sentence à condition qu'ils quittent l'État. Mais considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Mildred et Richard portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt Loving contre Virginia symbolise le droit de s'aimer pour tous sans aucune distinction d'origine, et c'est cette histoire extrêmement célèbre aux États-Unis dont s'empare le jeune réalisateur Jeff Nichols, qui est déjà l'auteur d'un certain nombre de films particulièrement remarqués, dont Midnight Special que nous traitions ici l'an dernier. Et ce nouveau film fait déjà pas mal parler de lui, qui ressemble à s'y méprendre à une réussite. Voilà, D'Étoiles Plein les Yeux, c'est terminé pour ce numéro. Aujourd'hui, c'était Pierre Lemoyle et Rémi Cerda. Voilà, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter la page de l'émission sur le site pour donner votre avis sur le film. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe, finalement un petit peu réduite. À très bientôt dans les salles obscures.